الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ففي هذه الليلة التي هي ليلة الثالث والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ رسالة قيمة كثيرة المنفعة غزيرة الفوائد في حياة الإنسان وهذه الرسالة كتبها الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله شيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كتبها في موضوع السعادة التي يطلبها كل إنسان وسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة en cette soirée du 16 février 2020, nous sommes réunis pour entamer la lecture d'un écrit dont l'auteur n'est autre que l'éminent savant, la montagne de science, le dénommé Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, qui fut le plus grand professeur de l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, qui a traité dans cet ouvrage de ce que recherche tout le monde, sans exception, la joie et le bonheur. Il a intitulé cet écrit « Les moyens utiles pour une vie heureuse ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que la raison pour laquelle ce grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a traité ce sujet et a écrit cet ouvrage est le fait que, alors qu'il était hospitalisé au Liban, où il subissait des soins, il a découvert un livre à l'hôpital intitulé en arabe « Da'il qalaq wabda'il hayah »« Délaisse les soucis et débute la vie » écrit par un auteur américain qui, bien sûr, n'était pas musulman. Et il était quelqu'un qui aimait lire. Et il avait la curiosité de vouloir savoir tout ce qui se dit, d'augmenter sa culture. Il s'est mis à regarder cet ouvrage qui traitait des moyens amenant au bonheur, à l'épanouissement dans la vie. Puis, après avoir lu cet ouvrage, il s'est dit qu'il fallait écrire dans ce domaine, ce qui serait une orientation pour les croyants. Un ouvrage montrant aux gens, avec l'esprit de la foi et de l'islam, comment atteindre le véritable bonheur. Mais le médecin l'avait interdit de lire et d'écrire, car il fallait reposer son esprit. Il a demandé alors à l'un des gens qui l'accompagnaient d'aller lui acheter des feuilles et un stylo. Puis il s'est mis à écrire cet ouvrage en cachette. Et chaque fois que le médecin venait lui rendre visite, eh bien, il ordonnait à ce que l'on cache ses feuilles. Et ainsi, il a écrit ces quelques pages qui ont été traduites par la suite, traduites en nombreuses langues, et qui ont été imprimées à plus de 50 000 exemplaires. Allahu Akbar. Un homme malade sur un lit au Liban, qui se dit « Il faut que je montre aux croyants comment atteindre le bonheur ». Tout ça pour vous dire que quand la personne est sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala met la baraka, la bénédiction et la réussite. Et c'est ainsi qu'a été connu cet ouvrage, ce petit épître ou alors cette lettre écrite par ce grand imam, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le bonheur, c'est ce que tout le monde recherche. Peu importe la croyance de la personne, l'âge, l'origine, le rang social, le niveau de culture, chacun cherche le bonheur. Le problème est que très nombreux sont les gens qui font erreur. Dans la route y menant, certains ont pensé que le bonheur allait s'obtenir en multipliant notamment les voyages. Ils se sont mis à voyager toute leur vie. Mais à chaque fois, à la fin d'un voyage, il y a ce que l'on appelle le retour. Certains ont pensé que le bonheur était derrière le fait d'amasser les biens de cette vie d'ici-bas. Ils ont passé toute leur vie à s'enrichir et ils se sont retrouvés les plus pauvres du monde, comme eux le témoignent. D'autres ont pensé que le bonheur était d'occuper son temps par tout un tas de choses qui sont sans grande valeur en réalité. Et chacun pense que son bonheur est là où il le conçoit. Un parmi les gens le voit dans sa croyance, qui est une croyance erronée. L'autre le voit dans telle et telle chose, et ainsi de suite. Mais alors, où est le véritable bonheur? Est-ce qu'il existe? La réponse va faire l'objet de ces quelques assises, incha'Allah, que nous allons passer à lire, dans lesquelles nous allons lire cet écrit de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Car effectivement, la joie existe bel et bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la voie y menant. Le prophète alayhi salatu wa salam également. Cependant, les gens ont fait mine de ne pas savoir où se trouve le bonheur, ou alors ils ont carrément ignoré où est le bonheur. Ils ont donc fourni tous leurs efforts, passé tout leur temps à la recherche de ce dernier, sans jamais l'atteindre, sans jamais l'acquérir. Ils se sont retrouvés à vivre parmi les gens les plus malheureux, alors qu'en apparence, ils étaient peut-être montrés du doigt, admirés, aimés des gens. Ces gens qui souhaitaient leur ressembler, et pourtant, dans leur fort intérieur, il y a bien le malheur, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi lahu alhamdu kullu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Fa inna rahat al qalbi wa tuma'ninatahu wa surura. وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عميلة أو عملية ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا ولكن سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. Après avoir mentionné le nom d'Allah comme à l'habitude de tous les auteurs d'ouvrages, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoigner de l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, il dit, certes, le repos du cœur, sa quiétude et sa joie, de même, la dissipation des préoccupations et soucis, est la chose que tout le monde recherche et par laquelle la personne mène une bonne vie. Heureuse. Cette chose a des causes, nous dit-il. Certaines sont des causes religieuses, d'autres sont des causes naturelles, et d'autres encore sont des causes relatives aux actions que l'on fait dans notre vie. et elles ne peuvent toutes se réunir, c'est-à-dire ces causes, que pour les croyants. Quant à autres que les croyants, même s'ils atteignent certaines de ces causes menant à une part de la joie, elles ne seraient pas complètes et ils perdraient ce qu'il y a de plus utile et de meilleur pour eux dans cette vie d'ici-bas tout comme dans l'au-delà. La première chose par laquelle il commence, rahimahullah, c'est nous montrer l'endroit où est située la joie de la personne. Entre autres, le cœur, le repos du cœur, sa quiétude et sa joie. Ainsi, la joie, le bonheur, le repos, la quiétude sont des choses qui habitent le cœur. Dès lors que le cœur les ressent, le corps aussi vit avec. Et dès lors que le cœur ne les voit pas, eh bien, le corps va suivre avec. Il a débuté par le cœur, parce que le cœur est ce qu'Allah observe chez son serviteur. Pas seulement. Allah tabaraka wa ta'ala observe le cœur, mais aussi les actions faites par celui qui possède ce cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum » Allah ne regarde pas votre apparence ou votre état apparent ou alors votre corpulence. « Wa la kin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs et vos actes. Ainsi, c'est ce qu'Allah regarde chez nous et observe, notre cœur. Ce cœur que tu as et dont les gens qui sont autour de toi en ce moment même ignorent le contenu, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, lui, le connaît. Ce cœur, tu dois l'entretenir. Ce cœur, tu dois le purifier. Tu ne dois pas montrer à Allah tabaraka wa ta'ala un cœur impur, habité par les souillures, détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous allons parler plus en détail bientôt, incha'Allah ta'ala. Ainsi, le cœur est la base. C'est lui qui ressent le bonheur ou le malheur. C'est lui qui vit, qui goûte à la saveur de la joie ou à l'amertume du malheur et à ses douleurs. Et tout le monde recherche la quiétude, la joie qui permet à la personne de vivre une bonne vie. Et justement, cette joie et cette quiétude a des causes religieuses, naturelles et les actions que la personne fait. C'est ça qui va procurer ou non le bonheur de la personne. Et en fonction de la présence de ces causes, il y aura proportionnellement à ces dernières la présence du bonheur ou son absence dans le cœur. Et elles ne se réunissent que chez les croyants, car les causes religieuses sont absentes chez les mécréants, chez les polythéistes, chez ceux qui n'adorent pas Allah tabaraka wa ta'ala, et d'autres choses encore. Ces derniers, j'entends par là les polythéistes ou ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent atteindre une partie du bonheur. Mais il ne s'agira que du bonheur apparent. Le bonheur mondain qui a un début et une fin et qui, pendant son existence, est sujet à la défaillance. Alors que le bonheur ressenti par le croyant, lui, est tout autre. C'est la joie même. Ainsi, l'auteur, rahimahullah, nous dit, je vais, dans cet ouvrage, citer ce qui me vient à l'esprit comme cause menant à ce bonheur. Et nous dit, فَمِنْهُمْ مَنْ أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهَا فَعَاشَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَحَيَا حَيَاةً طَيِّبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْفَقَ فِيهَا كُلِّهَا فَعَاشَ عِيشَةَ الشَّقَاءَ وَحَيَا حَيَاةَ التُعَسَى ومنهم من هو بين وبين بحسب ما وفق له والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. Il y a parmi les gens, et là il va nous parler de trois catégories de personnes en fonction du bonheur qui est ressenti ou non. Il y a parmi les gens certains qui ont pris une grosse part du bonheur. Ils ont vécu une vie paisible, une bonne vie. D'autres ont pris une grosse part du malheur. Ils ont vécu une vie d'échec. Et les autres qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont entre le bonheur et le malheur. Ils ont comme part du bonheur ce qui est proportionnel aux causes qu'ils ont fournies pour l'atteindre. Ils ont comme part du malheur ce qui est proportionnel aux causes qu'ils ont fournies ou alors aux choses qu'ils ont faites pour atteindre, que ce soit volontaire ou non, mais ces choses dont va résulter forcément, inévitablement, le malheur. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit, Allah est celui qui accorde l'assistance et celui à qui on demande l'aide pour atteindre tout bien et repousser tout mal. Encore une fois, l'importance de tout rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne s'agit pas de lire et de penser que l'on a acquis ce savoir qui nous permettra d'ores et déjà d'atteindre ce but ou de le mettre en pratique. Car l'apprentissage est quelque chose qui est certes très important, mais insuffisant pour atteindre le but si Allah ne te donne pas son aide. Et tu ne peux pas être parmi les bienheureux si Allah ne te rend pas bienheureux. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais si Allah tabaraka wa ta'ala décide autre chose pour toi, pour une sagesse dont il est connaisseur, eh bien tu n'atteindras pas ce que tu recherches. D'où l'importance de demander à Allah sans cesse et sans arrêt l'aide et la guider. Ainsi, il va entrer dans le vif du sujet. Et nous dit Faslun wa a'zamu al-asbab li dhalika wa asluha wa usuha huwa al-iman wa al-amal as-salih. Première partie du livre. La cause la plus immense, la plus importante, la base, l'essence du bonheur, c'est la foi et les bonnes actions. C'est la base du bonheur. Voyez-vous cet arbre fruitier qui est beau en lui-même et qui n'est pas seulement beau en lui-même. Il tire profit aux gens puisqu'il leur donne de quoi se nourrir. Cet arbre fruitier a des racines sans lesquelles il n'aurait pas pu être là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le bonheur ressemble à un arbre fruitier. Un arbre qui donne toutes sortes de fruits tout aussi bons les uns que les autres. Cet arbre a besoin de bonnes racines. La racine, la base, le fondement du bonheur, c'est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, avec tout ce que cela implique, ainsi que les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min » فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit, quiconque fait une bonne œuvre, homme soit-il ou femme, tout en ayant la foi, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le rétribuerons. Nous lui accorderons la récompense en fonction des meilleures actions qu'il faisait. Ce verset est une base. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au bonheur. Voulez-vous atteindre le bonheur? Alors écoutez cela. Quiconque fait une bonne œuvre, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, tout en étant croyant, tout en ayant la foi, la véritable foi. Quelle foi? La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui implique la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, la connaissance de sa splendeur, la connaissance de sa grandeur, la connaissance de tous les bienfaits qu'il a offerts à ses serviteurs, la connaissance de sa toute-puissance, de sa force, le fait de savoir qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et que toutes les créatures implorent Allah et proclament le tasbih, Subhanallah. Seulement, on ignore leur manière de le faire, mais Allah, lui, la connaît, Subhanahu wa ta'ala. Le fait de connaître Allah par ses noms et ses attributs. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: Man araf Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Quiconque connaît Allah par ses noms et ses attributs l'aimera inévitablement. C'est la base du bonheur. Quiconque ne connaît pas Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de place dans son cœur pour le bonheur. Quand je parle du bonheur, je ne parle pas du bonheur ou de la part mondaine du bonheur. Je parle du bonheur dans toute sa réalité, que seul le véritable croyant peut ressentir. Il a un chemin pour être atteint. Le fait de connaître Allah Azza wa Jal, le fait de n'adorer qu'Allah, de n'invoquer qu'Allah, c'est ça être croyant. Le fait aussi d'avoir foi en tous les autres piliers de la foi. Foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit douloureux ou non. Le fait d'avoir ces convictions dans le cœur, de croire à tout ce qui l'adviendra à chacun d'entre nous après sa mort, depuis la séparation de l'âme avec le corps, jusqu'à l'étape de la tombe où les deux anges viendront interroger la personne. Qui est ton Seigneur? lui diront-ils. Quelle est ta religion et qui est cet homme qui vous a été envoyé? À ce moment-là, alors, les croyants qui vivaient le bonheur dans cette vie d'ici-bas sont ceux qui seront raffermis par Allah et qui sauront répondre: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme qui m'a été envoyé est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le sais car j'ai lu le livre d'Allah et attesté de sa véracité. Ces gens-là vont goûter au bonheur, car ils font des bonnes œuvres et ils les accompagnent de la foi, car il existe des gens qui font des bonnes œuvres sans les accompagner de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah, la foi de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là vont être récompensés par Allah, parce qu'Allah n'est pas injuste. Cependant, ils ne seront récompensés que dans cette vie d'ici-bas. Il est possible qu'Allah, azza wa jal, repousse un malheur d'un kafir, d'un mécréant qui a fait une bonne action pour la bonne action qu'il a faite. Il repoussera de lui un malheur qui aurait pu l'atteindre dans cette vie d'ici-bas pour lui rendre ce qu'il a fait. Cependant, lorsqu'il arrive le jour dernier, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On verra toutes les actions qu'il faisait, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, et on les réduira alors en poussière éparpillée. Voilà où s'arrêtera leur part du bonheur. Alors que ceux qui font des bonnes œuvres, tout en étant croyants, Allah nous dit qu'il les fera vivre une bonne vie. Et en plus de cela, il leur accordera une grande récompense proportionnelle aux bonnes actions qu'ils faisaient. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit: فَأَخْبَرَ تَعَالَى وَوَعَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. Allah exalté soit-il a informé dans ce verset qu'il a fait la promesse pour ceux qui ont uni la foi aux bonnes œuvres de leur faire vivre une bonne vie dans cette vie d'ici-bas et de leur accorder une belle rétribution dans la vie de l'au-delà. وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمرة للعمل الصالح المصلح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. La cause de cela est très claire, nous dit l'auteur. Certes, les croyants ayant foi en Allah, ayant une foi correcte en Allah, nous dit-il. Pourquoi ? Parce qu'il existe des gens qui se réclament de cette foi, mais qui en réalité ont une foi qui est corrompue, qui est défaillante. Ils n'ont pas la bonne croyance dans le domaine des noms et des attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, ils falsifient les versets relatifs aux noms et aux attributs d'Allah, notamment en leur donnant des sens qui ne sont pas les leurs. Ils adoptent une croyance qui n'est pas la bonne. Il ne s'agit pas d'eux dont on parle, qui atteindront le bonheur. Par contre, ceux qui ont la véritable foi, la bonne croyance, l'aqidat al-sahiha, d'où l'importance d'apprendre le tawhid, l'aqidat, la croyance islamique, celle qui porte ses fruits, qui fait naître de bonnes actions, des actions qui réforment les cœurs et les comportements de la personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, eh bien ces gens-là ont avec eux des fondements, des bases avec lesquelles ils affrontent ce qu'ils rencontrent dans leur vie. Que ce soit des situations en relation avec la joie, des moments de joie, ou des situations en relation avec la tristesse, des moments de tristesse. Car dans cette vie d'ici-bas, les situations varient et changent. La personne vit un bonheur tantôt et subit un malheur tantôt. Elle est éprouvée par Allah tabaraka wa ta'ala ou alors punie par Allah subhanahu wa ta'ala et parfois elle est comblée par Allah azza wa jal. Cette personne, pour savoir affronter toutes ces choses de la vie, savoir comment se conduire face aux bonnes choses qui l'atteignent et savoir comment se conduire face aux choses qui lui sont douloureuses, a besoin d'une base. Reprenons l'exemple de cet arbre. Cet arbre dont nous avons parlé, si ses racines ne sont pas fortes et solides, il suffira d'une tempête de vent, de pluie, pour qu'il se déracine, pour qu'il tombe, parce que ses racines n'étaient pas fortes. Alors que l'arbre dont les racines sont bien implantées au sol, si bien qu'elles sont fermes et solides, la tempête de vent va passer, il se peut que l'arbre va légèrement bouger ou vibrer, mais pas plus. Il va aussitôt se remettre en place. C'est la situation du croyant. Dans sa vie d'ici-bas, s'il a des bases qui sont saines, qui sont fortes, c'est-à-dire la foi correcte, qu'il a apprise, qu'il a développé dans son cœur, qu'il a étudié, il sait qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaît son créateur, azza wa jal, il connaît sa sagesse, sa puissance, ses bienfaits, eh bien, le malheur ou la douleur qui viendra l'atteindre sera comme ce vent qui ne pourra pas déraciner cet arbre. Il dit, « يَتَلَقَّوْنَ الْمَحَابَّ وَالْمَسَارُ بِقَبُولٍ لَهَا وَشُكْرٍ عَلَيْهَا واستعمال لها فيما ينفع فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. Nous sommes amenés à faire face à deux sortes de situations. Le bonheur et la douleur. Quant à la situation du bonheur, l'imam Sa'di rahimahullah nous dit de ces gens-là qui ont cette bonne base, lorsqu'ils sont touchés d'un bonheur, lorsqu'ils sont comblés par un bonheur, eh bien, ils se montrent reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se servent de ce bienfait par lequel Allah les a comblés dans l'obéissance d'Allah. C'est ça la manière de remercier Allah et de lui exprimer sa gratitude. Quand Allah Azza wa Jal te donne l'intelligence, tu la mets au service de l'apprentissage de ta religion. En cela, tu t'es montré reconnaissant envers lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne des biens en abondance, tu t'acquittes de l'aumône annuelle et tu offres au besogneux ce dont il a besoin. En cela, tu t'es montré reconnaissant envers Allah. Si Allah tabaraka wa ta'ala te donne des enfants, tu les éduques dans la foi, dans la piété. En cela, tu t'es montré envers Allah reconnaissant. Et ainsi de suite. Le fait d'utiliser les biens qu'Allah te donne dans son agrément, c'est de cette façon que l'on est reconnaissant envers lui. Regardez bien ce qu'il nous dit ici. C'est très important. Il nous dit que quand la personne utilise le bienfait par lequel Allah l'a comblé de cette façon, c'est-à-dire dans l'agrément d'Allah, Azza wa Jal, eh bien, elle est tellement heureuse, c'est-à-dire d'avoir pu remercier Allah, car remercier Allah en soi est un bienfait immense. Et Allah a dit dans le Coran, wa qalilum min ibadiy ash-shakur, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Allah est détenteur de grandes grâces pour les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Eh bien, celui qui sait se montrer reconnaissant envers Allah en utilisant le bienfait par lequel il a été comblé par Allah, dans l'agrément d'Allah, sera tellement heureux d'avoir pu être reconnaissant envers Allah, d'espérer cette récompense. Non seulement il jouit d'un bonheur qu'Allah lui a donné, et en plus de cela, il se montre reconnaissant, et se montrer reconnaissant est une des meilleures adorations d'Allah. Eh bien, en voyant tout cela, il ressentira un bonheur bien plus grand que le bonheur qu'il a ressenti en recevant le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à la base. Mettons cela de façon plus claire à travers un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala te donne des biens en abondance. Il te comble par la santé et te comble par la subsistance licite. C'est cette santé et cette subsistance que tu vas utiliser pour te rendre à la Mecque afin d'accomplir le cinquième pilier de l'islam. Et quand tu vas arriver dans cet endroit, si tu t'y es préparé comme il se doit, eh bien, tu ressens un bonheur tel que tu as oublié cette histoire d'argent que tu as utilisée pour venir, qui en soi est un bienfait. Mais tu te vois serviteur d'Allah, quelqu'un qui a su remercier Allah. Eh bien, ta poitrine s'élargit, ton cœur s'attendrit, ta vie s'apaise, tu as réussi. Car tu n'as pas été leurré, tu n'as pas été dupé par Shaitan, qui a trompé un bien grand nombre de gens, si bien qu'ils ont été détournés. Je ne dis pas des actions qui sont recommandées dans l'islam, mais des actions qui sont fondamentales, des piliers de l'islam, de la prière, de l'acquittement de l'aumône, de l'accomplissement du pèlerinage, peut-être même du jeûne du mois de Ramadan. C'est pour cela que quand le jeûne du mois de Ramadan arrive, certains le voient comme un fardeau duquel ils sont pressés de se décharger. Ils n'attendent que la fin de ce mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le voient pas comme un bienfait. Ils le voient comme une contrainte. Pareil pour ceux qui prient par paresse. Ils voient cette prière comme une contrainte. Alors que celui qui a compris l'objectif de sa vie, il se lève avec joie avant même de dormir. Il est préoccupé par sa prière. Et il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et il demande à Allah de lui accorder le réveil pour accomplir cette prière. Il n'est pas trompé. Celui-là, il vit dans un paradis avant même d'entrer dans le paradis. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il y a dans cette vie d'ici-bas un paradis. Quiconque n'y entre pas, n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. C'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux douleurs de cette vie d'ici-bas, comment ces gens qui ont cette base qu'est la foi réagissent? L'imam Sa'di nous dit وَيَتَلَقَوْنَ الْمَكَارِهَ وَالْمَضَارِ وَالْهَمَّ وَالْغَمِّ بِالْمُقَاوَمَةِ لِمَا يُمْكِنُهُمْ مُقَاوَمَتُهُ وَتَخْفِيفِ مَا يُمْكِنُهُمْ تَخْفِيفُهُ وَالصَّبْرِ الْجَمِيلِ لِمَا لَيْسَ لَهُمْ عَنْهُ بُدٌّ وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُمْ آثَارُ الْمَكَارِهِ مِنَ الْمُقَاوِمَاتِ النَّافِعَةِ وَالتَّجَارُبِ وَالْقُوَّةِ وَمِنَ الصَّبْرِ واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. Quant aux choses douloureuses dans cette vie, ces gens-là y font face, qu'il s'agisse de soucis en relation avec quelque chose du passé, relevant du passé, on appelle cela al-ham. Et on dit de la personne qui est touchée de soucis pour quelque chose qui l'a affecté, relevant du passé, on dit de cette personne qu'il est ou qu'elle est mahmoum. Ou alors que ce soit en relation avec un souci présent, une préoccupation présente, on appelle cela al-gham, et la personne est appelée marmoum. Ou alors un souci en relation avec quelque chose que l'on redoute à l'avenir, on appelle cela Al-ham, pardon, le passé, on l'appelle al-huzn, et la personne est appelée hazin. Et l'avenir, on appelle cela al-ham, et la personne est appelée mahmoum. Peu importe de quoi il s'agisse, que cette douleur qui atteint le cœur soit en relation avec quelque chose relevant du passé, du présent ou de l'avenir, eh bien, ces gens-là qui ont cette base qu'est la foi et les bonnes actions, résistent face à ces douleurs. Ils savent y faire face. Et il y a trois manières d'y faire face. Elles sont citées ici. La première, c'est résister et repousser ces douleurs autant que possible. Résister et repousser ces douleurs autant que possible. Les gens sont différents dans leur force de foi, dans leur force de personnalité, dans la fermeté qu'ils ont dans leur religion. Les uns ne sont pas comme les autres. Certains sont capables de repousser. C'est la première catégorie. La deuxième, ou alors de diminuer autant que possible. Ils n'ont pas réussi à repousser complètement ce souci. Alors ils œuvrent afin de le diminuer autant que possible. Car ils n'ont pas réussi à le dissiper complètement. Et enfin, s'ils n'arrivent pas à le dissiper complètement, ni à l'amoindrir ou le diminuer, alors ils font preuve d'une belle endurance. Ils savent qu'Allah a décrété, il est parfaitement sage, ils font preuve d'une belle endurance. Ils savent que c'est inévitable, c'est décrété par Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela leur donne alors une expérience dans leur vie et une force. Et à travers cette patience, ils espèrent une très grande récompense de la part d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se dire qu'Allah va les récompenser, car ils ont cette foi et ces bonnes actions, ils ont cette foi authentique, le fait de se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser, les amène finalement au bonheur, malgré la douleur qu'ils ont pu ressentir. Car ils se disent, voici une occasion qui m'a été offerte de gagner la promesse d'Allah adressé aux endurants lorsqu'il dit وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. Fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui, quand ils sont atteints d'un malheur, disent nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. Cela on les éloge de leur Seigneur et sa miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Car Allah tabaraka wa ta'ala est adoré dans ces deux situations. La situation d'aisance, la situation du malaise. La richesse, la pauvreté. La bonne santé, la maladie. La force ou la faiblesse. Dans ces deux situations, Allah est adoré. Mais la situation difficile, est celle où le serviteur va augmenter en degré et va prouver son amour à Allah. Il va prouver à Allah ce qu'il est pour lui. Entre autres, le serviteur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Man arada sa'ada » ou l'imam Ibn al-Taymiyyah rahimahullah « Man arada as-sa'ada fa'alayhi bitahqiqi al-ubudiyya » Quiconque recherche le bonheur, qu'il concrétise la servitude pour Allah. Concrétiser la servitude pour Allah, Azza wa Jal, c'est-à-dire se mettre dans cet état dans lequel tu te sens l'esclave d'Allah, assujetti à l'ordre d'Allah, au décret d'Allah, ayant besoin d'Allah, se passant de tout autre que lui, adorant Allah, sollicitant Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di rahimahullah a dit « Kama abbara al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an hadha fil hadithi sahihi annahu qal » Le prophète alayhi salatu wa sallam nous exprime cela explicitement dans le hadith authentique où il dit « Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr in asabathu sarra shakara fakana khayran lah » وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Étonnante est la situation du croyant, tout entière. Car, quand un bien l'atteint, il se montre reconnaissant, et cela est un grand bien pour lui. Et quand une douleur l'atteint, il se montre endurant, et cela est un grand bien pour lui. Et cette situation ne peut être vécue que par un croyant. Parce que le croyant sait ce qu'il y a derrière comme sagesse d'Allah. Derrière l'épreuve, derrière la douleur, derrière la difficulté. Tout comme il sait ce qu'il y a derrière les bienfaits comme moyen de se rapprocher d'Allah. Notamment en se montrant reconnaissant vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors, quand il reçoit un bienfait, il pense déjà à la récompense qu'il va gagner s'il se montre reconnaissant envers ce bienfait. Résultat, il se retrouve à jouir d'un bienfait mondain qui lui a été donné par Allah. Il en profite et en profitant, en vivant bien, parce qu'il profite de ce bienfait, il pense déjà à la récompense d'Allah, un double bonheur, mondain et de l'au-delà. Et quand il est atteint d'une douleur, il se montre endurant, car il sait qu'après l'endurance, il y a la délivrance. Il sait qu'après l'endurance, il y a un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Et qu'Allah Azza wa Jal lui ouvrira ses portes, incha'Allah. Cela ne peut atteindre qu'un croyant. L'imam al-Sa'di nous dit, « فَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَضَاعَفُ غُنْمُهُ وَخَيْرُهُ وَثَمَرَاتُ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ مَا يَطْرُقُهُ مِنَ السُّرُورِ وَالْمَكَارِهِ Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le butin que gagne le croyant et les fruits de ses actions se multiplient, qu'il s'agisse d'un bien qu'il atteint ou d'une douleur qu'il ressent. Ce sont deux moyens de se rapprocher d'Allah et de gagner sa récompense. لِهَذَا تَجِدُ ثْنَيْنِ تَطْرُقُهُمَا نَائِبَةٌ مِنْ نَوَائِبِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ فَيَتَفَاوَتَانِ تَفَاوُتًا عَظِيمًا فِي تَلَقِّيهَا وَذَلِكَ بِحَسَبِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ Il nous donne des exemples dans la vie de tous les jours. Pour cette raison, nous dit-il, tu peux trouver deux personnes atteint d'une des choses de cette vie d'ici-bas. Ça peut être un bonheur et ça peut être un malheur. Et pourtant, ces deux personnes sont tout à fait différentes dans leur manière de recevoir cette chose, ce bien ou ce malheur. Et leur différence est proportionnelle en réalité à la différence qu'il y a entre eux dans la foi qu'ils ont. Quand l'un d'entre eux est touché par la perte d'un bien mondain, il peut aller jusqu'à la déprime. Cette déprime va souvent le conduire au délaissement de la prière. N'avez-vous pas vu ce grand nombre de gens abandonnant la prière à qui il est dit « Pourquoi avez-vous abandonné, rompu votre lien avec Allah ?» Ils répondent « J'ai trop de problèmes. » Voilà la première façon de réagir face aux douleurs de la vie d'ici-bas, s'éloigner d'Allah. Et en agissant ainsi, la personne ne fait qu'augmenter ses problèmes. Car ce qu'elle ne comprend pas, c'est que la douleur d'être loin d'Allah, le malheur d'être égaré de la voie d'Allah Azza wa Jal, est en réalité bien pire que le malheur qu'elle ressent dans cette vie d'ici-bas. Car cette vie d'ici-bas est passagère, elle s'arrête, mais celle de l'au-delà, elle ne s'arrêtera plus. Eh bien, il nous dit, donc, deuxième exemple, l'exemple du bonheur. La personne qui reçoit un bonheur, un bien de cette vie d'ici-bas, par lequel elle va s'enfler d'orgueil, se sentir méritante. Pour elle, c'est tout à fait normal. J'ai eu ces biens parce que j'ai travaillé, elle dit. Et cette parole, c'est une parole de shirk asrar, parce qu'elle a rattaché les bienfaits à autre que le bienfaiteur. Au lieu de dire « c'est par la grâce d'Allah que j'ai pu obtenir ces biens », elle dit « je les ai eus parce que j'ai fait telle chose, parce que j'ai hérité de mes ancêtres, et j'en passe ». Ça, c'est la situation de ceux qui ne savent pas réagir comme il se doit, que ce soit face à la douleur ou au malheur. De l'autre côté, il y a ceux qui savent réagir. Ils sont atteints d'un malheur. Le même malheur ayant atteint ceux qui ont déprimé, qui ont abandonné leur lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont mené une vie pleine de gêne, eux, ils font face à ce malheur avec le plus grand apaisement. Il perd un bien mondain, ça n'a aucune importance pour lui. Il est séparé de quelque chose qu'il avait l'habitude d'utiliser, ce n'est pas grave. Ce n'est pas son lien avec Allah qui a été rompu. Il sait qu'Allah lui donnera quelque chose d'autre, un autre moment. Il rate quelque chose, ce n'est pas grave. Il prendra la même autre chose plus tard. Peut-être même qu'il apprendra fois deux, fois trois, il est toujours apaisé. Il ne va pas stresser, paniquer, s'exciter, crier ici et là, prononcer des paroles mauvaises. Non, il est apaisé, il reçoit cette douleur en disant « Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha ». Il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne ce que l'on doit dire lorsqu'une douleur nous atteint. Allahumma ajurni fi musibati. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur qui m'a atteint. Wa akhluf li khayran minha. Et donne-moi quelque chose de meilleur à la place. Cette femme, parmi les femmes des sahaba, qui a perdu son époux, on lui a dit, prononce cette parole. Demande à Allah ce qu'il y a de meilleur. Et son époux était d'un des plus vertueux. Elle a dit, mais qui sera meilleur que mon époux? Prononce cette parole, lui a-t-on dit. Elle a prononcé cette parole. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a demandé en mariage. Il n'était pas meilleur? Alayhi salatu wa sallam. Allahu akbar. L'imam al-Sa'di nous dit, « هذا الموصوف بهذين الوصفين » يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. La personne décrite par ces deux choses que sont la reconnaissance envers Allah et l'endurance et tout ce qui en découle, va ressentir une joie telle, cette joie est due à quoi? Elle est due à sa reconnaissance envers Allah, lors du bienfait, et son endurance lors du malheur. Elle va ressentir une joie telle, un apaisement tel, que vont se dissiper et disparaître de son cœur les soucis, les angoisses, ce sentiment de sentir la poitrine serrée, étroite, la tristesse de la vie, pour laisser place à la bonne vie dans cette vie d'ici-bas. Il dit ensuite, والآخر يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل متشتته من جهات عديدة متشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة. Quant à la personne qui n'a pas ces deux comportements que sont la reconnaissance face au bienfait et l'endurance face à la douleur, va faire face au bienfait par de l'orgueil. Au lieu de faire preuve de modestie, de dire « Loué soit Allah, il m'a comblé, moi le faible serviteur, moi le pécheur, Allah m'a donné tout cela », eh bien lui, il va faire face au bienfait d'Allah Azza wa Jal avec des mauvais comportements. À l'instar de ces animaux sauvages qui se jettent sur la proie qu'ils vont manger. C'est un bienfait d'Allah pour eux. Tel est le comportement de l'homme quand il n'est pas reconnaissant envers Allah. Et en plus de cela, il n'aura pas le cœur apaisé. Il se jette sur le bienfait d'Allah Azza wa Jal sans se montrer reconnaissant et il ne trouve pas d'apaisement dans son cœur. Son cœur est éparpillé. Son cœur est dispersé ici et là entre plusieurs sentiments. Entre la crainte de voir ce qu'il aime disparaître, il aime les biens de cette vie d'ici-bas. Au lieu de se montrer reconnaissant envers Allah, quand il voit un bien arriver, s'approcher de lui, il a peur de le perdre, alors il est préoccupé par ce souci. Il a peur que son compte en banque diminue. Il a peur que ses biens immobiliers, mondains, financiers ne diminuent ou ne disparaissent. Donc il ne peut même pas profiter de ses biens. Car pendant les biens, au lieu de les rattacher à Allah, il est pris par d'autres soucis. Il faut que je place, il faut que je fasse attention, il faut que je surveille. Donc il est entre ce sentiment-là et entre le sentiment d'en vouloir davantage. Donc finalement, il n'est jamais tranquille. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il est l'esclave de cette dunya. Et l'esclave de cette dunya ne sera jamais tranquille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham » Que périsse l'esclave de l'or, que périsse l'esclave de l'argent. Si tu n'es pas l'esclave d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu le seras de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Ainsi, il est soucieux d'en avoir davantage. Il ne peut même pas profiter de ce qu'il a. Regardez, les gens aisés, riches, qui transgressent, qui n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal, ils ne profitent même pas de leur argent. Ils quittent ce bas monde et les héritiers se battent les uns les autres pour chacun prendre leur part. Quelle vie ? La vie de la tristesse. L'imam Sa'di rahimahullah dit ensuite وَيَتَلَقَّ الْمَكَارِهَ بِقَلَقٍ وَجَزَعٍ وَخَوْفٍ وَضَجَرٍ فَلَا تَسْأَلْ عَمَّا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ شَقَاءِ الْحَيَاةِ ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. Nous avons parlé des bienfaits qui atteignent ce genre de personnes. Maintenant, les douleurs. Les douleurs, je vous laisse imaginer le comportement de ces gens-là. La moindre douleur, ils sont inquiets, déstabilisés. Ils sont touchés par la lassitude. Ils se plaignent. Ne voyez-vous pas autour de vous certaines personnes qui se plaignent pour tout? Elles se plaignent parfois pour des choses qui sont bien. Elles se plaignent parce qu'il fait trop chaud. Elles se plaignent parce qu'il fait trop froid par la suite. Elles se plaignent parce qu'elles n'ont pas mangé. Elles se plaignent parce qu'elles ont trop mangé ensuite. Parce qu'elles ne sont pas rattachées à Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di nous dit, ne te pose même pas la question sur le malheur qu'ils vivent. Et sur les maladies qu'ils les atteignent dans leurs nerfs. Ce sont ces gens-là qui deviennent nerveux, qui consomment les cachets les uns après les autres. Alors qu'en apparence, ils ont atteint tout ce que l'homme recherche. Mais la réalité est tout autre. Ils n'ont rien atteint. Ils ont tout perdu. Et ils sont atteints par la peur de voir leur situation s'aggraver davantage. Et ils n'espèrent même pas la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas d'endurance pour se consoler, pour diminuer cette douleur. Ils n'ont rien de tout cela. Ils sont complètement perdus. Pour cela, beaucoup de gens ont fini par revenir à Allah, azza wa jal, ont fini par se repentir à Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce soit des chanteurs, peut-être que vous en avez entendu certains, ou alors des gens qui étaient au sommet de ce que l'homme recherche dans cette vie d'ici-bas, ils ont fini par se rendre compte qu'il n'y avait aucun bonheur dans tout cela et que ce n'était que du faux et qu'il fallait nourrir ce cœur qui n'a cessé de vivre vide, un cœur vide d'Allah Azza wa Jal. L'auteur a dit « Wa kullu hadhihi mushahadun bitajriba » Toutes ces choses que nous avons citées ont fait l'objet de l'expérience. Les gens savent que c'est vrai. وَمَثَلٌ وَاحِدٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ إِذَا تَدَبَّرْتَهُ وَنَزَّلْتَهُ عَلَى أَحْوَالِ النَّاسِ رَأَيْتَ الْفَرْقَ الْعَظِيمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْعَامِلِ بِمُقْتَضَى إِيمَانِهِ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الدِّينَ يَحُثُّ غَايَةَ الْحَثِّ عَلَى الْقَنَاعَةِ بِرِزْقِ اللَّهِ وَبِمَا آتَ الْعِبَادَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ الْمُتَنَوِّعِ. Toutes ces choses-là sont constatées dans l'expérience de la vie. Il dit, si tu médites sur la situation des gens, tu verras la très grande différence entre le croyant qui agit en fonction de sa foi et l'autre personne. Et tu verras que la religion t'encourage à te contenter de ce qu'Allah t'a donné, à te satisfaire de ce qu'Allah t'a donné. Car quand on est satisfait de ce qu'Allah nous a donné, on est libre. C'est quand on n'est pas satisfait qu'on est emprisonné en réalité. Le fait de se contenter de la subsistance qu'Allah a donnée, subhanahu wa ta'ala, et de ce qu'il a accordé comme grâce et bienfait à ses serviteurs. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah a dit dans son commentaire de Al-Manzouma fi Sayri ila Allah wa Dar al-Akhirah, le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Souvenez-vous de cette phrase. Je vous avais dit que c'est une phrase qu'on ne peut pas acheter avec l'or et l'argent de cette vie d'ici-bas, dans laquelle il a dit Man radiya billah walaw ala al-qalil min ar-rizq رضي الله عنه ولو بالقليل ولو بالقليل من العمل. Quiconque est satisfait d'Allah malgré le peu de subsistance qui lui a peut-être été donné, Allah sera satisfait de lui malgré le peu d'action qu'il fait. Allahu Akbar. Et en plus, quand Allah Azza wa Jal te donne un peu de subsistance, ce n'est aucunement pour te priver, mais c'est parce qu'il te connaît, il sait ce dont tu as besoin, ce qui est dans ton intérêt. Alors il te donne ce qui est proportionnel à la connaissance qu'il a de toi, car il est ton créateur. C'est donc au final pour te faire du bien, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit que s'il avait élargi la subsistance à tout le monde, ils auraient transgressé sur la terre d'Allah. Mais Allah donne à qui il veut, Azza wa Jal. Alors que toi, quand tu fais peu d'actions, ce n'est pas pour un bien, c'est parce que tu es défaillant. C'est pour ça que le jour dernier, les gens demanderont à Allah de les faire revenir sur terre pour faire les actions qu'ils délaissaient, pour corriger les actions qu'ils n'avaient pas bien faites. Voilà la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di, rahimahullah, et ça te montre l'importance de la bonne réaction. Lorsque tu es atteint d'une maladie, ou ton enfant est atteint d'une maladie, ne pas se dire « Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Tu as été si insouciant de tous les péchés que tu as faits, au point de dire « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu n'as pas appris qui est Allah. Voilà ce que tu as fait. Tu n'as pas connu Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà ce que tu as fait. L'imam Sa'di, rahimahullah, dit « فَالْمُؤْمِنِ إِذَا بْتُلِيَ بِمَرَضٍ أَوْ فَقْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْأَعْرَاضِ الَّتِي كُلُّ أَحَدٍ عُرْضَةٌ لَهَا فَإِنَّهُ بِإِيمَانِهِ وَبِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ تَجِدُهُ قَرِيرَ الْعَيْنِ لَا يَتَطَلَّبُ بِقَلْبِهِ أَمْرًا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ. Le croyant, s'il est éprouvé par la maladie, ou la pauvreté, ou ses semblables, parmi les choses qui peuvent atteindre tout un chacun dans cette vie d'ici-bas, eh bien, il y fait face avec sa foi. Il se contente et est satisfait de ce qu'Allah lui a donné comme part du partage de la subsistance d'Allah, Azza wa Jal. Pour cela, tu vois que son regard, son œil est réjoui. Et il ne recherche pas quelque chose qui ne lui a pas été destiné. Il ne perd pas son temps à dire pourquoi je n'ai pas eu telle chose, pourquoi je n'ai pas eu telle chose. Car il sait que tout cela est dans la main d'Allah, Azza wa Jal. Et en cela, il est épanoui. Sa poitrine s'élargit, son cœur s'attendrit. Les soucis n'ont pas de place dans son cœur ni dans son esprit. Car il est satisfait d'Allah, Azza wa Jal. Et plus encore, il observe la situation des gens qui sont en termes de bienfaits en dessous de lui. Et là, il se voit comblé. Il regarde les gens qui sont en dessous de lui. Il se dit, Allah m'a tout donné. Je pense que vous avez déjà fait cette expérience. Un homme est allé rendre visite à un jeune homme qui, à cause d'un accident, a perdu ses deux bras. Qu'Allah l'aide à endurer cette lourde épreuve. Cet homme qui est allé le voir était pensif sur des choses de sa vie d'ici-bas. Mais quand il est arrivé dans cette chambre et a vu que le jeune homme avait perdu ses deux bras, il est sorti de cette chambre d'hôpital et a dit « Je suis le plus riche. Pourquoi ?» Parce qu'il a regardé la situation de celui qui est en dessous de lui. Des fois, la personne se dit « Je n'ai pas assez. » Je manque de telle chose, de telle chose. Il suffit qu'elle observe ces gens qui seraient prêts à tout donner pour avoir ce qu'elle a, pour qu'elle se rende compte qu'en réalité, elle a beaucoup. Car quand on regarde les gens qui ont plus que nous, au lieu de regarder les gens qui ont moins de nous, on méprise le bienfait d'Allah. On pense qu'on n'a rien. Tu manges un peu et tu dis, je n'ai rien mangé. Tu as oublié celui qui est mort de faim. Tu es atteint d'une maladie qui n'est pas forcément extrêmement grave, qui en général ne cause pas la mort, tu te dis « je souffre ». Alors que la personne qui souffre dit « Alhamdoulillah ». Voilà la différence. Donc il faut regarder ceux qui sont en dessous et pas au-dessus. « وَرُبَّمَا زَادَتْ بَهْجَتُهُ وَسُرُورُهُ وَرَحَتُهُ عَلَى مَنْ هُوَ مُتَحَصِّلْ على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. Il est possible qu'une telle personne qui réagit de cette façon ressente dans son cœur une joie, une quiétude et un repos bien plus grand que ce que ressent la personne qui a reçu tous les bienfaits de ce bas monde sans avoir ce que l'on appelle al-qana'a, sans se contenter de ce qu'Allah lui donne. Elle en veut toujours plus. Donc elle n'est jamais à l'aise. L'autre n'a pas beaucoup et elle se sent la personne la plus libre, la plus heureuse. Et voyez dans la vie de tous les jours, plus la personne a, plus elle a l'impression qu'elle n'a pas. Moins elle a, plus elle est proche d'Allah Azza wa Jal, plus elle se dit « Alhamdulillah ». Quand elle est croyante, je veux dire. « Kama tajidu hadha alladhi laysa indahu amalun bimuqtada al-iman. إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء. Tout comme tu remarques cette personne qui n'a pas cette foi ni ce que la foi implique, dès qu'elle est atteinte d'une pauvreté ou de la perte d'une des choses recherchées dans cette vie d'ici-bas, tu la vois dans la plus grande faillite et dans la plus grande douleur ou la plus grande tristesse. Wallahu al-musta'an. Nas'alu Allah azza wa jalla an yashfi qulubana wa yashraha sudurana wa yarzuqana ghina al-qalb. Ghina al-qalb. Afwan, inna huwa li dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.